France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle.
Allez, action !
Action, pourquoi faire ?
La parité se reflétait déjà dans les nominations. Elle sera bien présente aussi au travers des récompenses. 6 pour Justine Triet, 5 pour Thomas Caillet. Les Césars du cinéma français, c'était hier soir à l'Olympia. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Oui, cette 49e cérémonie aura donc récompensé presque à égalité deux grandes propositions de cinéma, L'anatomie d'une chute de Justine Triet et Le règne animal de Thomas Caillet. Les autres, tous les autres, ramassent les miettes dans une cérémonie sobre et politique. Deux soirs avant ces Césars, une autre cérémonie du cinéma français s'est déroulée à Paris, plus confidentielle certes, mais qui concerne 3 millions de personnes en France, les déficients visuels, non-voyants compris. C'était les Marius de l'audiodescription. Bonjour Dune Cherville.
Bonjour.
Une cérémonie qui récompense la meilleure audiodescription de l'année. Ce sont les mêmes films sélectionnés qu'au César. Et là, c'est le film de Thomas Caillet qui l'a remporté. Vous nous raconterez ce métier, le vôtre de traducteur d'images. Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi de L'Empire aux derniers hommes. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
C'est un drôle de moment pour nous, non ? Depuis quelque temps, la parole se délie. Dans ma rébellion, je pensais à ces termes qu'on utilise sur un plateau. Silence. Moteur demandé. Ça fait maintenant 30 ans que le silence est mon moteur. J'imagine pourtant l'incroyable mélodie que nous pourrions composer ensemble, faite de vérité. Ça ne ferait pas mal, je vous promets. Juste une égratignure sur la carcasse de notre curieuse famille. C'est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez. À une enfant prise d'assaut comme une ville assiégée par un adulte tout-puissant sous le regard silencieux d'une équipe. À un réalisateur qui, tout en chuchotant, m'entraîne sur son lit sous prétexte de devoir comprendre qui je suis vraiment. C'est tellement rien comparé à 45 prises avec deux mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans. Le cinéma est fait de notre désir de vérité. Les films nous regardent autant que nous les regardons. Il est également fait de notre besoin d'humanité, non ? Alors pourquoi ? Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles ? Parce que vous savez, cette solitude, c'est la mienne, mais c'est également celle de milliers dans notre société. Et elle est entre vos mains. Nous sommes sur le devant de la scène, à l'aube d'un jour nouveau. Nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne puissent pas faire la pluie et le beau temps dans le cinéma. Ça donne le ton, comme on dit.
Après les révélations de ces derniers jours et les plaintes pour viol déposées contre Benoît Jacquot et Jacques Doyon, Judith Godrèche, à travers son discours, a bien alerté le cinéma français contre ce silence qui tue. Une standing ovation, une voix qui a bien résonné hier soir à l'Olympia, relayée plus tard dans la soirée par Justine Triet. Je voudrais dédier César à toutes les femmes, notamment à celles qu'on a blessées et qui se sont libérées en parlant et à celles qui n'y arrivent pas. Politique, je le disais, cette cérémonie avec cette intervention de Kauter Banania, lauréate du meilleur documentaire avec les filles d'Olphare.
Nous savons tous, les films ne changent pas le monde, mais changent notre rapport au monde et c'est pourquoi je crois qu'on devrait utiliser un peu notre notoriété pour défendre la justice dans ce monde, car on vit dans un monde où les criminels de guerre paradent en toute impunité, alors que quelqu'un comme Julian Assange, le meilleur d'entre nous, croupit en prison. Navalny est mort, ne laissant pas Julian Assange avoir le même sort. En parlant de journalisme et de liberté d'expression, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 70 journalistes qui ont été ciblés et tués à Gaza, dans l'enclave interdite aux journalistes. Parce que dire aujourd'hui « arrêtez de tuer des enfants » devient une revendication radicale. C'est complètement hallucinant. Une revendication qui, on ne va pas se taire, on ne va pas se faire intimider. Il faut que le massacre cesse. Il faut qu'on utilise notre autorité parce que ce qui arrive là-bas est tellement horrible, horrible. Et personne ne peut dire « je ne le savais pas ». C'est le premier massacre en live stream, en direct, sur nos téléphones. Nous le savons. Et il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup.
Kauter Benania, dont on aime beaucoup le film Les Filles d'Olfa, qui était récompensé du meilleur documentaire Gaza, mais aussi le climat et même les agriculteurs, soutenu par Raphaël Quenard, César de la meilleure révélation masculine. Laurent, je le disais, si César a aussi révélé cette grande année de cinéma 2023 à travers ses deux choix très audacieux.
Oui, les concurrences d'ailleurs au sein de chaque catégorie étaient rudes.
Oui.
On y avait vraiment des nommés qui étaient en belle concurrence. En général, la cérémonie dure à peu près le même temps, c'est-à-dire 3h, 3h30. En ressenti, on tombe à 6h. Là, c'était pas le cas. Franchement, il y avait un allant à peu près conservé. J'ai trouvé que globalement, on faisait moins les malins. Voilà, mais c'était certainement dû au contexte.
Pas de sketch embarrassant.
Voilà, et après tout, pourquoi pas hein, redonner un peu de sérieux, ouais. Un peu de sans dire de solennité. Non, vraiment, le résultat est très satisfaisant. Évidemment, pour l'anatomie d'une chute, qui est à la fois un film de couple, un film de procès, un film sur une maison, un film sur une famille, et au total, un film fascinant, complet, qui est certainement devenu déjà un classique. Face à lui, les Césars techniques du film de Thomas Caillet, je dirais s'imposer, c'est-à-dire c'est la loi du film de genre que de multiplier les bonnes récompenses sur les costumes, le son, les effets visuels, la photo. En plus, la musique, qui n'est pas là un César technique, mais non. Qui est on sait bien, l'auteur des musiques, c'est le troisième auteur du film, donc c'est un César très très important. Et puis, il y a eu, effectivement, Les Filles d'Olfa pour le documentaire. Petite mention pour Linda Velupoulet, qu'on a beaucoup aimé ici, et qui, là aussi, était en belle concurrence, et qui a un merveilleux César bien récompensé.
Très heureux pour Adèle Exarchopoulos, par rapport à Je verrai toujours le visage.
Absolument.
Mais un truc fou, le César du film étranger,
voilà.
Mia Chokri,
allez, venez.
Face à Wenders,
face
à Nolan, face à Corismaki
et Bellocchio. Ce n'est pas très raisonnable. Voilà, ce n'est pas très raisonnable, c'est ce qu'on va dire, et c'était là vraiment pour le coup alors la surprise de la soirée.
Justine Triet, Laurent, la deuxième femme après Tony Marshall en 99 a décroché ce César de la meilleure réalisation. Une histoire de couple avec Arthur Harari.
Travailler avec Arthur, c'est l'inverse de travailler avec un scénariste, parce que c'est évidemment que des discussions de mise en scène et de voilà, c'est pas un scénariste. Donc c'était assez intense mais chouette. Voilà, c'est étrange. Je pense que je suis pas sûre de revivre ça, qu'il ait envie de revivre ça lui non plus. Mais c'était hyper chouette et je me souviens d'un souvenir très précis, un matin très tôt où nous écrivions les bases de ce film. On était super excités comme des enfants. C'était presque comme un conte. Il y aurait un chalet, une femme, un enfant, son enfant aveugle, la montagne, la mort, du sang dans la neige et le piano qui déraille. Et voilà, je voulais te dire merci pour cette matinée. J'ai adoré travailler avec toi.
Justine Triet en course pour les Oscars, où son actrice Sandra Hüller est également sélectionnée, nominée. Une immense actrice récompensée, donc elle est allemande et elle le souligne.
Mais c'est pas normal, ça. Mais je suis allemande. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Oh là là, je vais essayer encore une fois. Merci. Merci à ce pays, à mes collègues de l'Académie, de m'avoir prise dans les bras comme ça. Je ne m'attendais pas à ça, encore moins en tant qu'Allemande. Déjà sur le plateau de tournage, la langue, l'origine n'était jamais un obstacle, mais toujours une possibilité. Ça me rend heureuse, je souhaite et je demande que ce soit toujours comme ça, partout. Et ceci, ce prix... Et pour ma fille. Et je souhaite qu'elle ne doit jamais vivre dans une relation comme celle de Sandra. Merci.
On n'a pas évoqué non plus, Laurent, le bel hommage de Jamel Debbouze à Agnès
Jaoui.
Alors, il y a eu bien sûr tout un épisode sur les disparus de l'année et un très trop court hommage hier soir à une grande actrice disparue. Cette semaine, Micheline Prel, doyenne à 101 ans du cinéma français, plus de 150 films, autant Lara, Gans, Demi, René, Lozay. Incroyable actrice.
Incroyable actrice. On va faire un peu plus long quand même que les Césars, effectivement. Oui. C'est quand même incroyable cette façon très raccourcie d'envisager les choses. Tiens, ben remontons la carrière plutôt que de la descendre très rapidement. Ça changera et ça peut-être ça lui aurait plu dans son côté burlesque et drôle, parce que c'est comme ça qu'on l'avait vu toutes ces dernières années chez sa fille Tony Marshall, au Magic Circus, dans les films de Jean-Michel Ribes. Il y avait une vraie drôlerie chez cette star. Sans être star. Et puis aussi, moi, je veux noter l'égérie qu'elle fut du cinéma français post-Nouvelle Vague des années 70, avec des petits bijoux comme Beau Temps, mais Orageux en fin de journée, face à Claude Pieplu, film de Gérard Fraude-Coutaz, ou encore Certaines Nouvelles de Jacques Davila. Elle était merveilleuse dans ces films-là. Et puis, ça a été aussi la scandaleuse du cinéma français, parce qu'elle a joué, évidemment, dans Le Diable au corps d'après Radiguet, face à Gérard Philippe, et également dans La religieuse de Jacques Rivette, film de scandale absolu, mais aussi en 1945 dans Boule de Suif de Christian Jacques, où elle joue une prostituée qui dit son fait à l'envahisseur prussien. Vous imaginez bien qu'en 1945, ça résonne beaucoup.
Mademoiselle, on vous appelle ?
Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ?
Capitaine demande, vous n'avez pas changé d'avis ?
Non, vous lui direz que je ne changerai jamais d'avis, c'est clair !
Good.
Si seulement je pouvais lui dire ce que je pense à cette canaille.
Qu'est-ce qu'il vous veut exactement?
Ça ne concerne que moi. Ah.
Que vous a-t-il dit au juste hier au soir?
Rien d'intéressant, je vous jure bien.
Donnez-moi votre main.
Là.
Vous n'avez pas confiance en
nous? Allons, confiez-nous ce gros secret.
Mais oui, on finirait par croire que vous vous méfiez de nous.
Que vous veut cet officier?
Ce qu'il veut?
Ce qu'il veut? Il veut coucher avec moi, voilà ce qu'il veut.
Ah, eh bien moi j'aime mieux ça.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Ce film est disponible en audio description pour le public malvoyant et non-voyant.
Nous sommes dans un studio au mur rouge éclatant, un studio aveugle qui a une grande baie vitrée qui donne sur la régie. Et donc tous les murs sont peints d'un rouge éclatant. C'est assorti aux micros qui sont devant nous, des micros pivotants, télescopiques, avec une bonnette rouge France Inter et l'assise des fauteuils également rouge. Et j'ai les sourires de Christine Masson et Laurent Delmas qui m'entourent autour de cette table en bois ovale avec des boutons dont je ne connais pas l'utilisation.
Voilà, d'une Ferville, une belle audiodescription.
C'est la première fois qu'on est audiodécrit.
Oui, et oui. C'est ça l'audiodescription. Bon. Avant, au cinéma, pour les non-voyants, c'était ça, témoignage de notre consoeur Laetitia Bernard.
Moi, je suis aveugle de naissance et j'ai connu l'époque où il n'y avait pas d'audiodescription, où ça n'existait pas. Et où donc, j'allais au cinéma, comme tout le monde, mais c'était l'époque où les copains, les copines ou les parents dans la salle glissaient discrètement quelques informations, genre « Non mais il y a eu un coup de feu, mais là il est pas mort » ou « Ah là c'est la princesse, elle est en train de pleurer, elle est toute seule dans sa chambre ». Et il y avait toujours le moment où le voisin de devant ou de derrière disait « Chut !» Et donc en fait, clairement, non seulement c'était dur de profiter d'un film, et en plus on dérangeait toute la salle.
Dune Cherville, audiodescriptrice, c'est votre métier. Vous êtes une quarantaine à le pratiquer en France, afin de rendre des films accessibles aux déficients visuels grâce à une voix qui décrit les éléments visuels de l'œuvre. Le système qui a été créé, on va dire, par un certain Grégory Frazier aux États-Unis et aidé en cela par Auguste Coppola, le propre frère de Coppola, n'est arrivé en France que dans les années 80.
Oui, c'est arrivé relativement tardivement, donc c'est à la fois un métier récent et quand même du siècle dernier. Donc, le premier film qui a été diffusé en France avec l'audiodescription, c'était en 89 et c'était Indiana Jones et la dernière croisade.
Il y avait du boulot.
Oui, il y avait du travail.
D'écrire un film, est-ce que c'est d'abord choisir ?
Absolument. C'est tout à fait choisir parce que tout... D'abord, il y a le temps du film. Mmh. Et le temps du film, il faut le laisser vivre. Et donc, nous, on va s'intercaler, on va s'insérer entre les blancs, on va dire, entre les dialogues, entre les bruits, entre les informations sonores importantes sur les reliefs de la bande-son. Et donc, il va falloir choisir les mots, puisque tous les mots ne font pas image.
Non.
Et choisir quoi décrire.
Par exemple, on peut dire prendre, attraper, empoigner, c'est pas la même chose.
Absolument. On est d'ailleurs, le descripteur est une machine de synonymes. On peut le dire. Exactement. Ouais. Saisir, s'emparer, tout ça ne crée pas la même image.
Parce que la phrase doit faire image. Vous n'êtes pas une narratrice, vous n'êtes pas la réalisatrice. Vous n'indiquez jamais des mouvements de caméra, par exemple.
Alors, en fait, on parle pas directement d'un mouvement de caméra parce que ça nous ferait sortir du film.
Oui.
Et puis parce qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'on décrit ce qu'on voit et on peut pas dire la caméra, à moins qu'il y ait une caméra, effectivement, dans l'image. Mais les mots, la langue française, va faire passer la technique cinématographique. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire passer un gros plan.
Le visage en gros plan, vous pouvez le dire, par exemple, non ?
Pas du tout,
non.
Pas du tout. Si je vous parle des lèvres susurrent quelque chose à l'oreille de quelqu'un,
ouais.
Vous voyez un gros plan ?
Ouais.
Si je vous dis « demain se joignent », ouais. C'est un gros plan.
D'accord.
C'est-à-dire l'image, elle est construite comme le langage. Donc, en fait, le sujet d'une phrase va devenir le sujet du gros plan.
Ne pas envahir l'espace mental du spectateur non-voyant. C'est très important, ça. Parce qu'en fait, les non-voyants ou malvoyants qui regardent des films font un effort de concentration absolument dingue. En fait, ça doit être hyper fatigant pour eux. Donc, il ne faut pas ajouter de la fatigue à la fatigue.
C'est fatigant peut-être, mais c'est surtout, ça permet de leur créer des images.
Ouais, bien sûr.
Et ça, c'est fondamental, sans quoi il y a beaucoup de films auxquels ils n'auraient pas accès, en fait. Des films qui commencent quasiment sans bruit, qu'avec de la musique, où il n'y a pas d'image, s'il n'y a pas d'audiodescription. Et oui, c'est important de ne pas ajouter... Trop d'images peut tuer le regard. C'est-à-dire que, moi, il y a une phrase d'une femme passionnée de cinéma qui a fait un essai dans Caméra intérieure, qui est aveugle, et qui disait, par rapport à la résonance, c'est-à-dire laisser aussi un silence, laisser vivre un dialogue, elle dit « comme la pierre jetée dans la mare, il nous faut les ronds dans l'eau de certaines paroles ». Ces temps de résonance-là, le descripteur, il doit aussi les laisser vivre, d'abord pour que le déficient visuel puisse construire son image et être prêt à en accueillir une autre.
Et pas être redondant avec les sons. Par exemple, quelqu'un déboule un escalier, si on entend débouler, c'est pas la peine que l'audiodescripteur le signale.
Non, tout à fait. D'ailleurs, souvent, on me dit « Ah oui, toi, tu dis... toi, ton métier, c'est dire il ouvre ou il ferme la porte. » Alors, non, précisément, ça s'entend. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça.
Ne pas être intrusif. On a un super exemple. C'est un film de Naomi Kawase qui raconte d'ailleurs un peu votre vie, l'histoire d'une audiodescriptrice qui va rencontrer un photographe qui devient de plus en plus aveugle et dont elle va tomber amoureuse. Mais ce qui était très intéressant, c'est d'abord que ce film décrit votre travail dans la mesure où vous faites une audiodescription, certes, mais vous êtes jugé et commenté par des non-voyants. On va écouter cet extrait de Vers la lumière de Naomi Kawase.
Quand elle dit
«
croyant apercevoir Toki », par exemple, ou débordant d'espoir de vivre. Peut-être. Vous livrez un ressenti personnel.
Non.
Franchement, en l'état, les descriptions sont plus gênantes qu'autre chose.
Vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça. Si je le fais, c'est pour vous.
C'est ça qui est intrusif.
La représentante de la société distribuant le film intervient.
Monsieur Nakamori, elle a vu qu'il fonctionne partiellement. Ça peut expliquer que son ressenti soit différent.
Entendu.
Dunkerville, vous avez fermé les yeux pendant l'extrait. C'est-à-dire que quand vous faites une description, vous écrivez, vous regardez les images, et après, vous faites un test en fermant vous-même les yeux.
Quand je regarde un film,
oui,
je le regarde intérieurement. Non, mais effectivement, on est beaucoup, puisqu'on va créer une œuvre sonore, purement sonore. D'ailleurs, on nous compare souvent à une fiction radiophonique, même si on part des images existantes. Oui, on se plonge dans le son et donc très souvent, on ferme les yeux pour voir ce dont j'ai besoin, ce qu'il me manque, ce qui va être nécessaire à décrire.
Par exemple, vous avez audio-décrit le film « Je verrai toujours vos visages » avec un sacré défi quand même, parce que c'est très bavard, et notamment les réunions de justice restaurative où on voit les victimes et les coupables face à face. Et il faut intervenir à l'intérieur d'un texte. Je vous propose cet extrait avec Miu Miu.
Je m'appelle Sabine. J'étais victime d'un vol à l'arraché dans la rue. J'avais 64 ans. C'était il y a 7 ans. Un scooter est passé. On a voulu m'arracher mon sac. J'étais traînée sur le trottoir. Ça a déséquilibré le scooter. Le voleur est tombé. Il était très en colère. Il m'a donné des coups de pied sur les mains, les bras. Il m'a beaucoup insultée. À la suite de ça, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. J'étais hospitalisée pendant 2 mois. Et il y a eu des complications, vraiment beaucoup. Je suis là parce que je veux comprendre cette violence. Je comprends pas.
Elle regarde les détenus et retire ses lunettes.
Je comprends pas cette violence. Je comprends plus la jeunesse. La violence partout, la violence dans les paroles. J'ai l'impression de venir d'une autre planète. Je veux plus avoir peur. Je veux que ça soit derrière moi.
Elle retient ses larmes.
Et voilà. Je m'arrête là.
Le détenu à l'épaisse barbe et à la chemise bordeaux lève la main. Cyril lui passe le bâton.
Sacré défi, ça, non, d'une Cherville, ce genre de film et de...
Oui.
Avec beaucoup de dialogue.
Oui, ne pas trop en dire et en même temps, donc, laisser résonner ce que je disais tout à l'heure et en même temps donner à voir, effectivement, parce que c'est un film de regard, c'est un film de parole, mais de regard, d'émotion. Et il y a des choses qui s'entendent dans l'émotion, donc nous, on n'a rien besoin de dire. Mais en même temps, c'était important aussi l'architecture, la spatialisation de cette prison, l'arrivée d'un côté des victimes, de l'autre les détenus. Et donc, il fallait aussi créer cette dans la description, cette spatialisation, et c'est important de que ce soit bien clair.
À quel moment on décrit le visage de l'acteur ou de l'actrice? Pas forcément au tout début.
Alors l'idéal, quand on peut, effectivement, sinon ça fait un peu cheveux dans la soupe, si au bout d'une heure 27, je vous dis, elle est brune et elle a des yeux bleus perçants, azur, comme les vôtres. Mais... effectivement, oui, si les personnages traversent les films, on a envie de les accompagner, et donc on a envie de savoir à quoi ils ressemblent. Donc c'est important de pouvoir les décrire relativement rapidement.
Sans donner votre avis, il est beau, elle est belle, vous voyez?
Ah, vaste question. Alors le descripteur, c'est un auteur, donc on va aussi faire avec nos émotions à nous et notre ressenti. Si un acteur ou une actrice sont choisis parce que ils sont beaux, en fait, ils répondent à des canons de beauté, on doit peut-être aussi faire passer ça, parce que ça dit quelque chose du choix d'un metteur en scène.
Comme la laideur, d'ailleurs.
Absolument.
Ouais. En partie.
Exactement.
Parfois, il faut faire des choix. Alors, par exemple, on peut choisir entre un paysage ou une lumière, mais il faut faire des choix.
Oui, tout le temps. On passe notre temps à choisir, et il y a des films dans lesquels c'est plus compliqué, parce que, alors là, je pense au théâtre, je pense à Feydeau, par exemple, ou à Renoir, quand on est au premier plan, que c'est très intéressant, mais qu'il se passe aussi quelque chose au deuxième, et surtout au troisième plan. Et c'est là où le descripteur doit être assez affiné, pour savoir à quel endroit il va falloir décrire. Est-ce que c'est la personne qui passe tout au fond, la silhouette, et c'est elle qui est intéressante et importante, ou alors l'échange de regards au premier plan.
Une heure de travail pour une minute de film?
Oui, c'est à peu près le temps qu'on met pour écrire une phrase, parce que d'abord, nous on écrit, on fait le travail inverse d'un... Le film parle d'un scénario, et va vers des images. Nous, on part des images pour aller vers un texte, mais c'est pas un texte qui est fait pour être lu, c'est un texte qui est fait pour être entendu. Donc en fait, on écrit, et ensuite on parle tout seul, on parle tout le temps tout seul, et on cale, on voit si notre phrase fait image et résonne correctement à l'oral. Parce qu'il y a des choses très belles à l'écrite qui sont assez laides à l'oral.
Est-ce que le metteur en scène vous suit, ou c'est quelque chose, c'est un autre chapitre pour lui?
Alors, malheureusement, il ne nous suit que très peu, mais parce qu'ils ne sont pas au courant. En fait, les réalisateurs, les réalisatrices ne savent pas que... Et d'ailleurs, on peut vraiment ruiner un film avec une mauvaise audiodescription. On a une forme de responsabilité, et puis nous, on doit coller à l'intention de réalisation. Et c'est pour ça que dès qu'on a un metteur en scène, une réalisatrice, c'est formidable de pouvoir travailler ensemble.
Comme Jeanne Herry, par exemple.
Comme Jeanne Herry, qui relit les textes, qui évidemment s'intéresse complètement. Ça me paraît impensable que quelqu'un qui fait un film n'écoute pas ou ne travaille pas avec l'auteur qui va faire 40 pages sur son film.
Mais alors pourquoi ça ne se fait pas ?
Parce qu'en fait, on est le bout du bout de la chaîne de cinéma et que souvent, voilà, c'est une obligation. Depuis le 1er janvier 2020, tous les films qui ont l'agrément CNC doivent avoir la piste audiodescription. Donc, c'est une case un peu à cocher et qui, malheureusement, l'information est trop peu relayée. Mais dès que l'information passe, il y a une audiodescription, voilà ce que c'est. Évidemment, toute la chaîne cinéma s'y intéresse.
Alors, il y a des cas hyper compliqués, comme Anatomie d'une chute, qui a reçu ses 6 Césars hier. On a pris, on n'est pas très sympa, parce qu'on a pris le tout début du film, où il y a quand même une musique tonitruante. Il y a les voix françaises, et il y a le descriptif en plus. C'est un travail.
J'aimerais parler du récit comme je n'aime pas le sport. Première chose, marcher, pourquoi pas, mais courir, non. D'accord, j'ai compris. Donc, vous...
La Quadra boit une longue gorgée de vin, regarde son interlocutrice en se mordant les lèvres. La jeune laisse flotter son regard ici et là, un sourire gêné passe sur son visage.
Ça devient difficile là, non? Oui, c'est compliqué. On va devoir arrêter Zoé. Je viens bientôt à Grenoble. Je vous appelle, d'accord ?
Ok.
Une légère crispation apparaît sur la bouche de la Quadra. Elle boit une nouvelle gorgée de vin.
Sorry about that.
Vraiment désolée.
Les deux femmes se lèvent.
Ok, bye.
À bientôt. Yeah, oui, sans faute.
En gros pull en laine sur un jean, la Quadra grimpe les escaliers intérieurs 4 à 4. La jeune brune franchit la porte d'entrée vitrée. Elle descend les quelques marches du perron. Le ciel est tout bleu, alentour la montagne est couverte de neige. Elle longe la façade avant du chalet et son appentis et marche jusqu'à une voiture.
Moi, ça me fatigue déjà, là, d'une chère ville.
Alors, nous, voyant, on est saturé d'images.
Mais oui.
Donc, mais moi...
Bah, même au son, là. Hein, oui. Sur les images.
Mais on est fatigué aussi en tant que voyant. C'est-à-dire, la description, c'est aussi le seul moyen d'avoir des images quand on est non-voyant et que pendant longtemps, l'audiodescription n'a pas existé. Et donc, les non-voyants se faisaient des hypothèses sur ce qui allait se passer ou non, sur ce qui se passait. Donc, c'est... Pour nous, oui, ça peut être fatigant. Pour eux, c'est une manière de voir.
Mais la Quadra, c'est quand même un choix un peu curieux.
Ouais, c'est bizarre. C'est comme
alors, c'est...
Ce sera tout au long du film, comme
non,
ça ?
Non, je ne pense pas.
Non.
Certainement par manque de temps.
Ah oui,
en fait.
Oui. D'accord.
On doit respecter les temps qui nous sont impartis.
Mais oui, forcément.
Voilà. Ouais. Et donc, certainement, c'est un choix par défaut, je pense.
Qu'est-ce qui était le plus difficile à audio d'écrire pour vous, depuis que vous avez fait de l'audio description ?
Les films de guerre, les films, les gros films d'action. Voilà, avec des boum-boum partout. Là, c'est très fatigant pour nous parce qu'on cale. Alors, on ne dit pas ils se battent et on laisse passer 4 minutes parce qu'on n'aurait pas d'image. Mais donc, on doit vraiment, voilà, je me souviens de Mémoire de nos pères, de Clint Eastwood.
Ouais, où ils se ressemblaient à peu près tous.
Où ils sont les tous soldats. Beaux, ils ont tous 20 ans, ils sont tous en uniforme militaire, ils ont tous des casques et on n'arrive pas à les reconnaître les uns les autres. Et nous, on est là pour accompagner notre auditeur dans ce méandre de la guerre. Et c'est vrai que c'était assez complexe à décrire. Je me souviens de Narnia.
Ouais, le monde
Narnia
de Narnia.
Narnia 2, très compliqué, avec beaucoup de choses qui n'existent pas.
Mais oui.
Donc à inventer. Voilà, mais c'est passionnant.
Ah bah tiens, d'ailleurs, on va écouter un petit extrait du règne animal, parce que ce sont ce sont trois femmes qui ont gagné le Marius de l'audio description, le règne animal.
Émile et Albert sont dans la rue.
Merde ! Émile ! Oh !
Le père les suit.
Tu remontes dans la voiture ? Émile !
Il rattrape son fils.
Émile, t'arrêtes ton cirque.
C'est quoi ton problème ?
Écoute, on a rendez-vous tous les deux, on y va tous les deux. Point, j'ai pas envie de discuter.
Face à eux, une ambulance tangue. Émile et son père observent le véhicule. Albert se rapproche de l'ambulance. Les vitres des portes arrière se brisent. Le père fuit avec Émile. Un homme ailé est éjecté de l'ambulance. Père et fils se mettent à l'abri derrière une voiture. L'homme est légé sur un pare-brise, un infirmier accourt. Il lutte avec la créature. Le conducteur au pare-brise détruit les fixes avec frayeur. Une femme filme la scène. L'homme ailé mord l'infirmier. Il en frappe un autre. Albert rejoint ses maîtres. Un des deux infirmiers propulsé au loin.
Pas mal, hein?
Ben, le calage est important, là.
Ouais, ben oui.
Voilà, bien sûr, le choix des mots, bien sûr.
La dentelle. Hein.
Tout à fait.
Godard, pour un audio descripteur, ça donne quoi?
Un cauchemar.
Ah oui?
un rêve, un plaisir et un cauchemar. Entre la bande son et la bande image qui disent deux choses différentes. Nous, on s'appuie sur la bande son, évidemment.
Oui.
Mais c'est fait, ça a été fait. Tout Godard n'est pas encore décrit. Donc, voilà, mais ça va être compliqué, effectivement, à faire.
Comment on audio décrit une scène de sexe?
Alors on le fait. Moi j'ai travaillé sur Showgirls par exemple.
Ouais.
Donc,
eh
ben on dit ce qu'on voit sans avoir peur de le dire. Voilà les choses, les mots. Je vais pas outrepasser les images, c'est-à-dire ne pas dire ce que je vois pas. Mais effectivement, on y va.
Mais parce que des choses que vous voyez en même temps.
Mais on y va. Oui, on dit ce qu'on voit et avec le vocabulaire approprié, avec la finesse ou non, ou la grossièreté voulu dans un film, mais on colle en tout cas toujours pareil à l'intention de la réalisation. Et
est-ce que l'intelligence artificielle vous fait peur?
Alors, elle nous fait peur et elle est déjà là. C'est-à-dire que, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, l'audio description est tout sauf remplir des trous dans un film. L'intelligence artificielle, elle nous propose une bande son du film en nous allégeant et en nous montrant les trous. Et donc elle remplit les trous. Elle ne sait pas s'il faut décrire le premier ou le troisième plan, oui, justement dont on parlait. Tout ça est assez critique, on va dire, et j'espère qu'on continuera, comme au César, ils ont dit, laissez les humains parler avec leurs mots d'humain.
On va terminer avec un truc assez passionnant qui est la VAST, donc version originale audio sous-titrée pour les gens qui ont du mal à lire, les dyslexiques ou le tout jeune public, imaginé par l'association Tous en Parle pour rendre accessible donc des films étranger en VOST aux malvoyants, dyslexiques, gênés par la lecture rapide, ce qui correspond à 10% de la population. Ils ont fait très peu de films pour l'instant. On va passer cet extrait de Drunk, et c'est Amalric qui fait toutes les voix de Drunk.
Comment tu te sens? T'as 40 ans?
Ok.
Comment je me sens? Je peux pas me plaindre. J'ai une femme superbe. Je vis à la mer. Ma femme a de l'argent. On a trois enfants, ils dorment dans notre lit et nous pissent dessus. Je ferme plus l'œil de la nuit. C'est vrai. On oublie tout ça et on trinque à ton anniversaire. Santé. Il est excellent, dommage que tu sois si sage. Dommage. Mais est-ce raisonnable d'être sage? Tu nous pointes une tête? Encore tes conneries? Bah, pas de moi. C'est celle d'un philosophe et psychiatre norvégien, Finn Skårderud. Selon lui, il est raisonnable de boire. Avant de conduire? Tout le temps. Il manquerait à l'homme 0,5 g d'alcool par litre de sang. Ça nous manque. Fascinant.
Drunk merveilleux avec la voix de Mathieu Amalric. C'est une appli téléchargeable sur un smartphone ou tablette qui permet à l'enregistrement des sous-titres lus de se synchroniser automatiquement avec la bande-son originale du film diffusée normalement dans la salle. Donc tout ça, ce sont des très très bonnes nouvelles, Lune Cherville.
Oui, absolument, que la culture soit accessible à tous.
Ouais.
Et le cinéma.
Vous restez avec nous. On rappelle que le Marius de description a été décerné au film Le règne animal. On se retrouve pour les sorties après Björk.
Your mouth floats above my bed at night. My own, a private moon. Just be-
C'était Björk et Rosaria, parce que on ne l'avait pas dit avant. On va commencer les sorties de cette semaine, Laurent, avec l'Empire de Bruno Dumont, avec Lina Koudry, Anna Maria Bartholomei, Camille Cotin, Fabrice Lucchini, entre autres. Et si un vaisseau intergalactique se posait sur Terre, pourquoi il ne choisirait pas la Côte d'Opale en France? Bref, Star Wars, c'est ces questions métaphysiques chez Bruno Dumont avec ce film L'Empire, fable, fantaisie, des effets spéciaux très dignes d'ailleurs, et sur Terre de sacrés comédiens, Lina Koudry en tête, en Marilyn désarticulée.
Ouais, c'est, j'avoue, mon coup de cœur de la semaine, voire un peu plus pour cet ovni de cinéma à tous les sens du terme. C'est l'improbable rencontre entre Star Wars et le petit quinquin, entre 2001 et la vie de Jésus, et puis aussi entre Dune, le 2 à venir, et la Jeanne de Charles Péguy. C'est dire si vraiment il y a de l'improbable dedans, mais comme vous le disiez très très justement, Dumont est certainement le cinéaste français actuel le plus métaphysique. Ces questions l'intéressent depuis toujours. Ses interrogations traversent tous ses films, même quand ils sont en apparence burlesques. Et c'est fascinant de voir comment il raccorde précisément ces questions, cet univers, avec la science-fiction hollywoodienne dans tout ce qu'elle a d'ampleur, etc. Avec un film qui a des vrais moyens, c'est un film à 8 millions d'euros, c'est pas du tout au rabais.
Ah, quand même!
Oui, oui, non, mais c'est bien, mais c'est très très bien, parce que voir dans le ciel une sorte de cathédrale d'Amiens resserrée qui devient un vaisseau spatial, je trouve ça merveilleux. Et d'ailleurs, insistons sur le fait que c'est un créateur d'images incroyable, et le premier plan du film sur une plage de la Côte d'Opale est à tomber.
Ouais, ouais, du grand cinéma. Le successeur, c'est le deuxième film de Xavier Legrand après Jusqu'à la garde. Heureux et accompli, Elias devient le nouveau directeur artistique d'une célèbre maison de haute couture française. Quand il apprend que son père, qu'il ne voit plus depuis de nombreuses années, vient de mourir et d'une crise cardiaque, il se rend au Québec pour régler la succession. Un film qui partage la critique d'un côté terrifiant et fondamental, de l'autre invraisemblable et grotesque. Alors, pas de juste milieu, Laurent.
Je crains d'être dans ceux qui pensent que c'est complètement raté. Effectivement, parce que dès le départ, d'ailleurs, la vision caricaturale d'un couturier, d'un défilé parisien nous a inquiétés profondément. Mais alors, quand le film arrive au Québec, alors là, il prend des allures de incroyable, de ridicule, de manipulation grossière du spectateur. C'est impossible de raconter la scène de twist du film. Il ne faut pas le faire. Je ne le ferai pas. Mais elle provoque tellement de rires nerveux, tellement de larmes, de colère, d'être ainsi grossièrement manipulé par une réaction qui est impossible à avoir dans cette situation-là. Je ne vous en dirai pas plus. Et le tout par un comédien principal dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est assez improbable.
Bon, on va passer vite là-dessus. Woke Up de Hong Sang-soo. Bing Soo, c'est un réalisateur célèbre, j'adore, il se donne toujours les beaux rôles, Hong Sang-soo. Accompagne sa fille chez une amie de longue date, propriétaire d'un immeuble. La visite des lieux entraîne pour Bong Soo un voyage hors du temps où se dessine à chaque étage ses amours passés et à venir. C'est en noir et blanc, c'est une rêverie intemporelle et très mélancolique.
Oui, moi je trouve qu'on est bien dans le cinéma d'Hong Sang-soo. On est d'autant mieux que effectivement, on n'est jamais trop perdu, parce qu'avec ce personnage récurrent de cinéaste, qui est quand même en général un peu alcoolique, un peu mélancolique, enfin il se donne un peu un beau mauvais rôle quand même malgré tout, avec toujours un voyage intérieur qui est beaucoup plus important que tout le reste. Là, en l'occurrence, un autre personnage principal qui est un merveilleux immeuble à plusieurs paliers, évidemment, évidemment différents lieux. On boit beaucoup, on mange beaucoup et on parle beaucoup. C'est la marque de fabrique des films dans Sang Soo. C'est pour ça peut-être que j'y suis bien aussi. Avec un budget extrêmement resserré, des films qui s'enchaînent les uns aux autres. On est vraiment effectivement dans cette espèce de d'univers cocon qu'on trouve très romérien à bien des égards.
Les derniers hommes de David Olofen, 9 mars 1945. L'armée japonaise lance un assaut foudroyant contre les troupes françaises en Indochine. Traquée par l'ennemi, une colonne de légionnaires déjà affaiblie s'élance au cœur de la jungle pour rallier les bases alliées à plus de 300 km. Un projet initié par Jacques Perrin, disparu depuis. C'était pour lui une façon de boucler la boucle, commencée il y a plus de 50 ans avec la 317e section. Bien sûr, on ne pense qu'à ça. La comparaison est douloureuse pour ce film. Il est difficile à cause du portrait de groupe d'entrer en empathie avec chacun d'entre eux, Laurent.
Oui, je partage hélas vos réserves, parce que Dieu sait si le film de Schoenderfer est un grand film. Dieu sait si Jacques Perrin était un grand producteur avec un vrai univers. Mais ce qui cloche, effectivement, ce qui ne va pas, qui était peut-être un pari narratif d'ailleurs au début, c'est-à-dire de ne pas trop individualiser le propos, mais de rester centré sur le groupe. Ben, au bout d'un moment, à force de ne rien savoir réellement sur chacun d'entre eux, on perd le fil, on s'ennuie, on n'a pas d'empathie ou d'intérêt pour chacun de ces personnages et c'est un vrai souci.
Double foyer, premier film de l'ex-critique Claire Vassé, Lily et Simon, c'est Amélie Decaine et Max Boublil, s'aiment mais n'habitent pas ensemble, Abel, l'enfant de cet amour, vit entre deux maisons un jour, les accidents de l'existence remettent en question leur mode de vie. C'est attachant, délicat, mais l'enjeu du film est faible. Dommage, parce que les deux acteurs principaux ont beaucoup de charme.
Oui, mais la situation de départ, quand même, ce double foyer aurait dû provoquer, parce qu'on est au cinéma, une situation burlesque, un peu explosive, voire dérangeante d'ailleurs, pourquoi pas. Or, c'est pas vraiment ce qui se passe dans le film, on reste à la surface des choses. Tout ça reste un peu gentillé, un peu mignon, à l'image des chansons qui émaillent le film, hein, d'Aldebert. Malheureusement, on est bien loin de Jacques Demy, et tout près d'un film assez maladroit, souvent surécrit, et à la conclusion que je trouve, moi, assez malaisant.
J'aime beaucoup Max Boublil, je trouve qu'il ne fait pas assez de cinéma. Eux vivent sous le même toit, sont très amoureux, c'est Sleep, premier film du coréen Jason Yu, ex-assistant de Bong Joon-ho. Oui, ils vivent en harmonie jusqu'à des crises de somnambulisme du mari, qui se transforme la nuit en quelqu'un d'autre de très inquiétant, jusqu'où va l'amour de la femme submergée par la peur et comment surmonter cette crise métaphysique sur l'anxiété.
Oui, raconté comme ça, c'est plein de qualités. Je suis pas certain que le film les tienne jusqu'au bout. Non, je dis ça parce qu'effectivement, le somnambulisme, c'est un excellent vecteur de frissons pour un film. Évidemment, on attend la prochaine crise en se demandant, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer?
Oui, c'est intéressant qu'une femme ait peur de son mari dont elle est très amoureuse pendant la journée.
Absolument. De ce point de vue-là, formidable point de départ, formidable première partie. Hélas, la seconde partie, le réalisateur choisit de devoir expliquer entre le surnaturel, le rationnel, avec une partie donc explicative, attendue, et finalement, c'est dommage parce que on ne retrouve pas ce mystère et cette promesse du film.
Au fil des saisons de Anna Ladoul et Marco Lavia, Charlie, 20 ans, étudiante, revient dans la ferme familiale en Virginie pour aider sa mère qui est souffrante. Charlie étudie la finance tandis que Laura gère un élevage de poules après une longue absence. Solange, la mère de Laura, la grand-mère de Charlie, débarque à la ferme. C'est de neuf. Chronique d'où sa mère, voilà pour le cliché comme ce film qui enfile un peu les stéréotypes. Heureusement, il y a Deneuve. Et surprise, le film est produit par Martin Scorsese.
Oui, alors là, ça laisse un peu, effectivement, on va dire. Les plus jeunes de nos auditeurs ne le savent pas, mais Catherine Deneuve a déjà joué une éleveuse de poules en France dans un film de sinistre mémoire qui s'appelle Le Choc de Robin Davis. Donc même ça, c'est pas une originalité. J'avoue que la Virginie américaine reconstituée en France, ça sent un peu le roussi là aussi. Et puis le personnage de la grand-mère fantasque, elle incarne si bien, on l'a déjà vu jouer par Catherine Deneuve. Bref, tout ça fait un film assez redondant et pas forcément très intéressant.
Une vie de James Hayes, Prague, 1938. Alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, Nicolas Winton organise des convois vers l'Angleterre où 669 enfants juifs trouveront refuge. Une histoire vraie révélée 50 ans après pour la première fois au cinéma. Et l'histoire est racontée dans ce film sur deux époques, 1938 1988, sobre, classique, mais qui n'évite pas le pathos, Laurent, malgré ou à cause La présence du grand Anthony Hopkins.
Oui, voilà, c'est ça, c'est un oscarisable à 250%, mais c'est une sorte d'Élise de Schindler avec un personnage principal qui serait moins ambigu que le Schindler de Spielberg, évidemment. Vous avez tout à fait raison sur l'analyse du film, c'est bouleversant sur ce que ça raconte. À la limite, moi j'aurais préféré qu'on me le raconte dans un documentaire.
Et enfin, Bye Bye Tiberiade, même si on en a déjà parlé avec elle, avec Lina Swalem, qui a emmené sa mère, l'actrice Yam Abbas, dans le village palestinien de son enfance et qu'elle a quitté 30 ans plus tôt, l'occasion pour la réalisatrice de rendre hommage au courage des femmes de sa famille.
C'est un très beau film.
On va passer à deux cadeaux pour vous d'une chère ville. On va essayer de vous faire découvrir celui-là. Peut-être ne l'avez-vous pas vu. C'est un film français dont l'actrice a été récompensée.
Ah, indice.
Ah oui, au César hier soir.
Pourquoi vous avez appelé ma mère? Vous n'aviez pas le droit de la mêler à ça.
Je voulais juste qu'elle vous convainque de signer cet article.
Pourquoi vous m'avez pas appelé directement?
Vous êtes trop dans l'affect. J'ai cru qu'en passant par votre mère, ça simplifierait les choses. Et je pensais qu'elle était au courant pour votre démission. Marguerite, je regrette vraiment que vous ayez arrêté les mathématiques.
Comment vous pouvez dire ça alors que vous m'avez écarté du jour au lendemain?
Je ne vous ai pas écarté, je cherchais une solution pour vous sortir de cette impasse.
Laurent.
Je crois que notre invité a trouvé.
Oui.
Marguerite.
Bravo, le théorème de Marguerite.
Le théorème de Marguerite.
Anna Novion et l'actrice franco-suisse Ella Rumpf qui a été sacrée révélation de l'année hier soir. On était très contente pour elle parce que elle joue très très bien dans ce film qui fait donc l'objet d'un DVD qui vient de sortir chez Pyramide Vidéo avec de très intéressants bonus. Et puis à côté de cette jeune actrice, il y a les formidables Daroussin et Julien Frison qu'on aime beaucoup
très,
également.
Très rapidement, Laurent, parce qu'il y a un deuxième cadeau, mais très très vite.
Le ciel rouge de Christian Petzold qu'on adore. Ours de Berlin 2023 chez Blackout. Merveilleux film allemand et là aussi assez romérien.
Un grand merci. Merci pour la musique à notre réalisateur. Un grand merci à Laetitia Bernard, notre consoeur, à Frédéric Ledu d'Accès Culture. Il y a une belle équipe. Xavier Pestugia à la réalisation, Christophe Magère à la préparation.
Merci à
et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Au revoir.
Salut.